Regard.
L'émission qui multiplie les points de vue.
En partenariat avec la scène nationale de Bourg-en-Bresse.
À écouter sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Regard en partenariat avec la scène nationale de Bourg-en-Bresse. Regard ou comment regarder les œuvres artistiques au travers de nos questionnements de société ou peut-être l'inverse. Et pour en parler avec moi en studio, Pascal et Rémi, bonjour.
Bonjour.
Et Julie pour représenter la scène nationale, bonjour.
Bonjour.
Vous écoutez Radio B.
Le mois d'avril est passé à toute vitesse et on a à peine eu le temps de respirer que mai est déjà arrivé. Alors avril a commencé avec une soirée Regard le 8 avril en partenariat avec Altec. Pascal, tu étais présente à cette soirée.
Et oui, par laquelle on est entré dans la thématique future de la scène nationale avec un temps d'échange sur la ville du futur, un croisement des regards entre une scientifique et un artiste. Encore une fois, une soirée regard a mis en scène un dialogue intéressant, accessible et stimulant. Un dialogue entre Lucie Merlier, ingénieure. Elle a un master en sciences sociales et elle est chercheuse au CETIL, qui étudie techniquement et socialement comment rendre nos bâtiments plus adaptés aux îlots de chaleur. Et elle a dialogué, Lucie Merlier, avec Philippe Pellier, directeur artistique de Mobilhome et programmateur de la zone d'occupation artistique à Bourg-en-Bresse. Donc ils ont évoqué ensemble les effets thermiques de la ville, la surchauffe urbaine, les solutions robustes et pertinentes. Alors des solutions qu'elles soient grises. Les solutions grises, c'est les solutions techniques via notamment les matériaux. Mais aussi, il y a des solutions vertes qui sont des solutions qui ont trait à la végétalisation, à la circulation de l'eau. Ou des solutions douces. Et les solutions douces, c'est nos comportements à nous, de citoyens, et l'organisation même de la société. Donc l'ensemble de ces solutions douces, notamment vertes et grises, pourraient produire des solutions robustes et pertinentes, solutions à ces questions de surchauffe urbaine, d'îlots de chaleur. Donc dans les solutions douces, notamment, il y a eu un croisement des regards sur l'importance de la démocratisation culturelle, puisque comment la démarche artistique peut être collaborative avec les habitants et leur permettre de s'approprier l'espace. Les œuvres artistiques provoquent des émotions, convoquent des imaginaires et elles lient et relient les personnes à leur environnement, à leur espace de vie. Donc comment l'art peut permettre s'approprier de l'intérêt de prendre soin de notre environnement, de voir comment il est se mobiliser pour pouvoir qu'il soit aménagé et éviter ces notions notamment de surchauffe urbaine. Donc dans le son que vous allez entendre, Philippe Pellier évoque le travail et l'œuvre de Thomas Latère, qui est l'œuvre de la ZOA, qui se trouve au passage des Cordeliers à Bourg-en-Bresse.
Ce que je racontais tout à l'heure, l'histoire du responsable de la voirie à Bourg-en-Bresse, qui nous dit dans une réunion, attention, le passage là-bas, il est complètement abîmé, tagué, et tous les luminaires, c'est des luminaires de pénitentiaires. Mmh. Moi, je lui dis, de quoi ? De service pénitentiaire. Ah, d'accord, de prison. Mmh. Et c'est cassé toutes les 3 semaines. Depuis des années. Ah oui, d'accord. Donc, on ne peut pas faire... Dans cet endroit-là, on ne peut pas faire la même chose que dans mon joli parc avec les abeilles. Vous voyez ?
Complètement, rien à voir.
Mais oui, mais pourtant... D'ailleurs, nous, on va tourner pendant des mois. On va manquer d'abandonner le projet, pour être franc. Ah oui, 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 oui. On essaye une première piste, catastrophe. Ensuite, la moitié de l'équipe et des discussions en interne sont... Oh là là, là 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 là. Parce que ça reste aussi de l'argent public. On ne va pas non plus... Il y a des moments où on se dit, bon, mais là, la maison est en ruine. Vous voyez ? Mais on avait du temps. Et c'est vrai qu'on est plusieurs, on n'a pas lâché, on a continué à discuter. Et c'est finalement en allant voir les commerçants, puis ensuite en discutant avec les habitants, encore un peu plus, d'autres habitants qui passaient là souvent et tout, que tout doucement, on s'est dit, tiens, non, il y a peut-être quelque chose en vrai. C'est pas si... Mais quelque chose de différent, de plus doux, de plus... Et l'art participatif, de la peinture figurative, quelque chose d'un peu coloriage. Vous avez refait du coloriage ? Non, mais sérieusement. Moi, j'en avais pas refait depuis des années. Un truc d'enfance, quoi. Un truc de. C'est vrai, hein. J'en ai refait, donc, à l'occasion, là, parce qu'à un moment, je suis venu participer. J'avais envie, moi aussi, de peindre mon carré bleu. Donc, le passage des Cordeliers, Thomas Latteur, à Bourg-en-Bresse. Mais c'est hyper agréable à faire. C'était un vrai bon moment.
Voilà, le plaidoyer pour le temps long, l'approche douce, le recyclage pour l'émerveillement des citoyens, favorisant la préservation des espaces.
Ma seule réponse pour l'instant, ou piste, c'est celle que je tire depuis des années et des années, qui est donc la question du recyclable et de choisir... des œuvres et des artistes et un fonctionnement logistique qui fait que on consomme le moins possible, le plus lentement ou le plus sobrement possible, ralentir. Ouais. Voilà. Et ça, pour le coup, pour l'instant, ouais, c'est indispensable. Là. Oui, c'est vraiment indispensable.
Alors Julie, l'idée de cette soirée Regard, c'était aussi de sortir un peu du théâtre, de la scène, d'aller explorer le rapport qui pourrait y avoir entre le monde extérieur, quoi, la ville, la société, les habitants, et puis l'artistique.
Oui, et puis on est parti vraiment de Bourg, puisque c'est là où on vit, et puis réussir à voir comment les regards ont changé avec ces interventions artistiques qui ont, dans un premier temps, mis de la couleur. Puisque on a eu cette collaboration également avec l'agence de communication de la ville, enfin qui s'appelle TED, qui avait mis la ligne rose, qui permettait d'évoluer d'une œuvre à l'autre, d'essayer de se rendre compte, puisque c'est le premier pas du changement, c'est déjà essayer de faire un espèce de pas en arrière, puis se dire tiens, on a tout ça en fait à proximité et comment est-ce qu'on le vit. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, la ZOA est censée revenir tous les 2 ans, puisque c'est quelque chose qui a été pensé avec les habitants, avec les habitants de la ville. Et puis, certaines œuvres qui n'étaient pas censées être pérennes sont restées pour 1 milliard de raisons. Et habillent maintenant la ville et font partie vraiment du quotidien des Burgiens et des Burgiennes à l'heure actuelle. Et puis, l'autre aspect qui nous paraissait aussi intéressant, c'était vraiment de réussir à se rendre compte que c'est en s'appropriant un lieu qu'on peut y amener du changement, qu'il soit dans un premier temps par de la couleur et par de l'artistique, et à se rendre compte qu'on peut le faire ensemble. Deuxièmement, dans nos vies où justement, on va très vite de se rendre compte qu'en fait, on peut faire les choses avec nos voisins, voisines, et que c'est là où on va pouvoir se dire, ah mais tiens, en fait, en étant dehors, il y a plus d'air, où on va pouvoir amener d'autres éléments sur se dire, ah oui, j'avais jamais vu, il y a pas mal d'arbres. On peut rester dehors aussi, on peut aussi s'approprier l'extérieur comme un lieu de vie et un lieu de partage. Et puis, pour terminer sur le propos de Philippe concernant tout ce qui est recyclage et prendre le temps, c'est quand même aussi des préoccupations dans le spectacle vivant à l'heure actuelle important qui ont permis, en tout cas, une prise de conscience collective et qui engendre de repenser les tournées des artistes, par exemple, sur leur trajet, sur les choix des matériaux, les choix des structures qu'on va déplacer d'un endroit A à un endroit B et comment on le déplace. Donc tout ça engendre aussi des réflexions au niveau artistique qui permettent de s'inclure dans des projets de développement urbain et non urbain. Et en lien avec ce dérèglement climatique qui est important et qui fait partie de notre quotidien également. Donc tous ces éléments de respect nous permettent de le faire ensemble.
Dans ce qu'on entend aussi du discours là de Philippe Pellier, c'est aussi l'idée de se rencontrer. Mmh. Et on retrouve à nouveau tout ce qu'on a évoqué là, au fur et à mesure de nos émissions, hein, ce truc de la médiation. Finalement, l'artiste a besoin d'aller au contact des habitants et des habitantes pour s'approprier des faits de société, des espaces, des lieux, des façons de vivre la ville, etc. Mais j'imagine que l'ingénieur, la scientifique présente également, parce qu'on voit aussi de plus en plus de participation citoyenne sur un aménagement de la ressource, par exemple. Alors, c'était un peu le projet du moment. Est-ce que ça a été également évoqué, ce travail-là?
Ah oui, Lucie Merlier vraiment travaille d'ailleurs au CETIL avec un groupement important de chercheurs et des scientifiques. Je dirais durs, qui sont des thermodynamiciens, des physiciens, des architectes, des gens qui étudient les matériaux, mais également des sociologues, également des psychologues qui vont prendre le temps d'aller parler avec les habitants, encore une fois, souvent via des actions artistiques qui permettent de s'approprier, de se rendre compte des façons de vivre, puisque c'est ce qu'elle nous évoquait. L'idée n'est pas simplement de faire un nouvel espace qui va nous permettre tout simplement d'avoir moins chaud, mais également de se dire, mais quelle est l'utilité de cet endroit ? Comment on y vit ? Et pour y vivre correctement, comment est-ce que je dois l'aménager ? Est-ce que c'est en le mettant complètement climatisé ? Ou au contraire, en essayant de le temporiser ? Mais encore une fois, tout est lié à la façon dont on y vit, à la façon dont on s'y déplace. Et c'est pour ça que le CETIL vraiment prend en compte tous ces éléments-là avant d'amener une solution technique, une solution dite dure. Et c'est pour ça que tous les éléments dont parlait Pascal tout à l'heure, les solutions vertes, robustes et douces, sont intégrées les unes aux autres pour amener des changements.
Et dans la présentation, il a été dit que cette ingénieure, elle est aussi chercheuse en fait en sciences sociales. Donc il y a une dimension aussi intéressante en termes de psychologie pour que les habitants, les personnes qui y vivent, puissent s'approprier cet espace et s'y retrouver. Enfin, c'est pas quelque chose de brut, c'est pas quelque chose de vertical. Il y a une idée aussi de démocratisation dans la ville, dans l'architecture. Alors moi, je pense à un exemple très concret, c'est-à-dire que les écoles de Bourg sont en train d'être végétalisées. Et bien en fait, ça ne s'est pas fait en claquant des doigts comme ça. Quoi. C'est-à-dire qu'on aurait pu arriver juste après les vacances, puis découvrir une cour avec du gazon, des copeaux, etc. Et il y a une démarche de la ville qui est de faire en sorte que ce soit les élèves, histoire que dès le plus jeune âge, cette appropriation puisse se faire, où on demande aux élèves comment est-ce qu'ils voient leur cour idéale. Donc ça passe par une petite manipulation artistique, où ils utilisent la pâte à modeler, où ils utilisent des cure-dents pour construire leur cour idéale. Et puis après, ben, on les interroge sur les usages, les jeux qu'ils peuvent faire, comment est-ce qu'ils se déplacent. Et à une échelle plus large, c'est ce qui se fait aussi pour rendre une ville finalement plus humaine, plus vivante et puis adaptée peut-être aux enjeux de demain.
Et puis, alors, il y a un espace là qu'on va pouvoir découvrir ou redécouvrir, où on a à nouveau ce lien entre l'extérieur, le dehors et puis la culture accessible pour toutes et tous. C'est l'état d'esprit du festival Brin de Cirque là, qui va commencer. Hein. Je me suis permise de faire cette transition à cet endroit-là que je me suis dit qu'on était au cœur du sujet. Mmh. C'est des dates qui arrivent là, du 14 au 23 mai. Rémi, tu veux peut-être nous faire une petite présentation et des petites recommandations autour du festival ?
Mais c'est vrai que tu l'as dit, en fait, c'est vraiment en lien avec le sujet, c'est-à-dire qu'on a un monument qui a plusieurs siècles d'histoire, qui est une icône de la ville,
qui est le monastère de Brou,
c'est ça. Et puis on y colle des caravanes, du cirque, des chapiteaux, des saltimbanques, et on se dit, mais c'est quoi le rapport entre les deux ? Ben justement, le rapport, c'est de faire cohabiter tout ça et de montrer que l'un ne va pas sans l'autre, que tout finalement est lié. Il n'y a pas une culture qui serait d'élite, une culture qui serait populaire à laquelle on devrait avoir honte d'y aller, on laisse ça sur le parking d'un supermarché en déshérence. Non, non, tout peut être lié. Et donc, Brin de Cirque, c'est BR comme Brou, et puis un parce qu'on y est, et puis un peu, voilà, Brin de Cirque.
Et du coup, toi, tu as une recommandation, là, ton premier lieu, là, c'est le lieu de rencontre par excellence.
Alors oui, moi je recommande la buvette déjà. Hein. C'est alors déjà parce que c'est ce qui fait vivre souvent les festivals. On l'oublie. Mais oui, c'est là où on croise beaucoup de monde, où on échange, on commence à discuter, où on refait le monde, où on refait le spectacle qu'on a vu. Mais alors pas que évidemment. Hein. Moi j'aimerais bien par exemple parler de l'inauguration. Alors on s'imagine souvent l'inauguration avec des discours, tous les financeurs qui sont là et qui ont leur mot à dire. Mais l'inauguration c'est aussi des spectacles adultes. Et le spectacle adulte du jour d'inauguration, donc le 14, ça permet de montrer que des non-professionnels sont aussi capables de faire, à hauteur de un jour d'entraînement par semaine, un travail bien, bien sympa. C'est-à-dire qu'encadré par des animateurs, les élèves de l'ETAC, donc vraiment, voilà, vous et moi.
Surtout toi, a priori.
Oui, c'est vrai qu'on pourrait me voir au trapèze. Mais voilà, mais en quelques mois, on est capable de progresser aussi bien dans une maîtrise technique, et encore le mot est peut-être un peu fort, de l'agré ou de la discipline qu'on comprend, que dans la création artistique, puisque chaque élève a aussi une dimension créatrice où il va créer lui-même de A à Z son numéro. Donc, c'est-à-dire que l'école de cirque a vraiment cette capacité de libérer une sorte d'énergie créatrice. Quoi. Et ça, on pourra le voir le mercredi 14 mai à 18h après les discours des officiels, et c'est sous chapiteau. Donc même
du coup,
s'il
si
pleut,
vous nous écoutez, vous allez vous dépêcher de courir jusqu'au chapiteau, puisqu'on est le mercredi 14 mai, 18h. Donc,
une fois
que vous avez terminé de nous écouter, vous courez. Comme ça, vous aurez raté les discours.
Voilà, c'est vrai.
Mais vous pourrez voir Rémi sur son trapèze.
Ouais, Je vais essayer d'être un peu plus modeste que ça, parce que voilà, je grimpe sur un trapèze et j'en fais pas plus. Hein. Bon, et puis on peut continuer.
On viendra te voir, Rémi.
On peut continuer aussi par les spectacles des élèves plus jeunes, où on peut mesurer vraiment combien l'art est mis à la portée de tous lors de ce festival, y compris les plus jeunes, dans une véritable démarche d'éducation populaire, parce que on en parlait tout à l'heure, mais les démarches mises à l'œuvre au niveau architectural, on est ici dans une démarche d'éducation populaire où on fait en sorte que tout le monde peut s'approprier l'espace. Et ici, c'est pareil, tout le monde peut s'approprier l'art. Et sur Brin de Cirque, le thème de cette année, car c'est la première fois qu'il y a un thème, c'est équilibre-déséquilibre. Alors, thème qui va être exploité dans le processus créatif des élèves, mais aussi dans les spectacles, on peut dire spectacles professionnels par des troupes pro, avec notamment une part belle au funambulisme avec le spectacle Une pelle de la Compagnie d'un ours. Et il s'agit d'une programmation de la scène nationale de Bourg. C'est à 18h30 le vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19, si je ne dis pas de bêtises, et je crois que je n'en dis pas. Et la Compagnie d'un ours propose aussi un spectacle sous yurte, un soir chez Boris, où les divagations de l'âme se mêlent à la métaphore de l'équilibre physique ou mental. Alors, n'hésitez pas à vous procurer la programmation complète, parce qu'il y a des spectacles pour tous, pour tous les âges, pour toutes les envies. Certains payants, d'autres à prix libre. Il y a également les spectacles des élèves, je l'ai dit. Et le samedi 17 mai à 20h30, on a du cirque aérien en plein air. C'est un spectacle à prix libre, avec le monastère de Brou en Guestard juste derrière. Et on a aussi une programmation de la tannerie avec Open Mic, avec JP, Ballast. Et pour clôturer ce bel événement, c'est le vendredi 23 mai avec la boum de DJ Babalia.
Eh bien oui, et puis un petit retour peut-être côté scène nationale autour de ces spectacles. Julie, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, je trouvais aussi important de remettre en lumière qu'il s'agit de cirque contemporain, qu'on est vraiment sur une vraie discipline artistique, sans dire qu'il n'y en a pas d'autre, mais c'est un cirque sans animaux, c'est un cirque qui met vraiment la part belle, encore une fois, avec la thématique équilibre-déséquilibre, mais en tout cas, qui met la part belle à la prestation et à la recherche de beaucoup de choses. C'est vraiment un festival qui est... tripartite entre guillemets sur l'organisation des spectacles, enfin même quadripartite puisqu'on a bien sûr le monastère royal de Brou, la tannerie, les TAC et la scène nationale et tous les bénévoles qui sont inclus dedans puisque encore une fois pour en plus de la buvette sans les bénévoles ce n'est pas possible, donc c'est important aussi je trouve de souligner tout cet investissement qui se fait autour de ce festival.
Et les chapiteaux sont montés par des bénévoles. Enfin, c'est une aventure extraordinaire que de se lever un matin et aller tirer des cordes, aller taper des pinces pour faire monter le chapiteau. Quoi. C'est magnifique. Et ça n'existe pas sans les bénévoles. Quoi.
Et puis encore une fois, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur ces changements de la ville, en tout cas à titre personnel, je trouve que c'est toujours un beau moment que de voir arriver les chapiteaux aux arrières de Brou, de voir la couleur. On sait qu'il va y avoir des caravanes, on sait qu'il va y avoir du monde, on sait qu'on peut passer par parler à n'importe quelle heure, on va rencontrer des gens qui investissent le lieu et qui s'approprient une partie de la ville d'une autre manière. On va rencontrer des gens qu'on ne croise pas forcément d'habitude, des artistes de tous âges. Et vraiment, les spectacles, même des amateurs et amatrices du territoire, sont vraiment de très, très bonne qualité. On passe des très bons moments, que ce soit artistique, musical et convivial en général. En tout cas, c'est un festival qui est très agréable et apprécié.
Et on peut y aller sans avoir la programmation sous les yeux. C'est-à-dire qu'on y va, il y a forcément quelque chose qui se passe. Et puis, même si c'est juste pour manger une crêpe avec des copains, on va discuter avec d'autres. Il y a des jeux pour enfants. L'espace est sécurisé, donc les enfants peuvent aller courir, peuvent grimper sur les structures mises à disposition. C'est un lieu où il fait bon se poser, qui est éphémère dans la ville.
Eh bien, on vous invite à aller tester tout ça, voir des spectacles, écouter de la vraie musique avec des vrais musiciens qui sont là pour de vrai devant vous. D'ailleurs, quand on tombe sur de la poésie vivante, ça fait quand même aussi du bien au moral d'aller voir des spectacles et puis de se dire ouais, « je viens de vivre un truc de dingue ». D'ailleurs, c'était le cas pour nous trois au mois d'avril, avec peut-être même nous quatre, je vois Julie qui hoche la tête, avec le spectacle « Imaka ». Pascal, ton petit retour ?
Oui, alors, je vais mal le prononcer, parce qu'il nous a dit, Mathurin Bols, comment le prononcer, mais c'est pas Imaka, je crois que c'est Imaha, ou Ima, enfin voilà.
Quel accent
puisque
inuit.
Ça veut dire, ici, peut-être en inuit. Voilà, donc c'est un spectacle proposé par Mathurin Bols, qui a d'ailleurs été en résidence au tout début de ce spectacle à l'ETAC, à la Maison du Cirque à Bourg-en-Bresse. Et la compagnie, donc, les mains, les pieds, la tête aussi. Donc c'était un spectacle de circassiens, d'acrobates de très très haute volée qui ont évolué avec vraiment une très grande virtuosité sur la banquise, ou en tout cas ce qui représentait la banquise, une structure modulable comme un skatepark qui a beaucoup modulé pendant tout le spectacle. Donc c'est un spectacle qui est fait aussi de silence, des décors légers mais aussi précis, des acrobates qui glissaient, grimpaient, des sons de crissement de pas dans la neige. Et puis voilà, il y a quand même eu des moments très drôles de certaines situations où interprètes tout au long du spectacle.
Ouais, moi j'ai trouvé que c'était un très beau moment de magie. C'est ça en fait aussi qu'on apprécie dans les arts du cirque, c'est cette magie en fait de pas tout comprendre, de pas toujours avoir une explication hyper précise ou rationnelle de ce qui est en train de se passer, là. Comment il arrive à faire ça avec son corps, et là attends, comment il a fait. Alors moi, ce que j'aime vraiment beaucoup dans cette compagnie, c'est le travail autour du trampoline. J'étais hyper impatiente de le voir arriver dans le spectacle, je me disais quand est-ce qu'on va voir le trampoline. Et puis ouais, la structure iceberg, banquise, plutôt incroyable, la mise en scène magnifique. Un super spectacle.
Et derrière cette mise en scène, ces acrobaties, en fait, tout aussi une construction, une raison d'être. Parce que son et images qui sont incrustées par moments dans ce spectacle, ça a été inspiré directement par Mathieu Rimbols lors d'un voyage dans ce fameux Grand Nord. C'est-à-dire que c'est lui qui a capté les sons, c'est lui qui a capté les images. Et ça donne aussi une interprétation par le public. Parce que là, la magie du spectacle, c'est aussi que la compréhension, elle va se faire à différents niveaux. Et chacun va comprendre peut-être différemment le spectacle. Là où on voit une banquise derrière la structure, alors ça, c'est évident, c'est la banquise. En fait, il n'est pas interdit d'y voir les cales d'un bateau ou voir même d'un brise-glace carrément, quoi.
Ou même la tectonique des plaques.
Oui, c'est ça. Ouais,
je trouvais, comme elle était très modulable, des moments où on pouvait voir aussi la tectonique des plaques devant nous qui bougeait.
Ah oui, puis vraiment une structure qui fait partie du spectacle, qui est un élément moteur, qui est vraiment un des protagonistes de ce qui se passe devant nous. Et point de vue technique, quelque chose d'assez impressionnant, puisque vous y étiez également, la structure prend toute la scène. Ouais. On était au max de l'occupation stérique de la cage de notre théâtre, puisqu'on avait, il restait 1m10 avant la passerelle des cintres en haut, et sur les latéraux également. Donc il y a eu, en plus de la prouesse artistique, une vraie prouesse technique menée par les techniciens de la compagnie et de la scène nationale, qui permettent de pouvoir réussir à bouger cette structure, qui ne sera pas forcément la même dans les théâtres. C'est vraiment elle va s'adapter, elle peut être plus grande sur certaines scènes qui peuvent l'accueillir plus grande et un peu plus petite. Et puis, dernière information intéressante, si vous avez fait attention, la contorsionniste assez impressionnante qui s'appelle Anaï de las Cuevas, on la retrouvera l'année prochaine à la scène nationale. Donc, il faudra bien rester attentif.
Oui, parce qu'il y a cette grande structure dont on parle. Et puis, il y en a une cette sorte de fil très fin sur lequel, justement, Anaï évolue. Alors, je voulais quand même qu'on cite, du coup, la scénographe. Parce qu'en effet, sur le bord de plateau, il y avait donc la scénographe, celle qui a construit toutes ces structures. C'est donc Gala Ognibene, qui a construit, en fonction aussi de l'évolution du spectacle, ces structures. Et c'est absolument impressionnant.
Eh ben, un spectacle au top. Merci à la scène nationale pour cette programmation. Je crois que le public était conquis. Hein. En tout cas, ça applaudissait beaucoup quand j'y suis allée. Et puis, c'est pas fini pour le spectacle. Si on a encore envie d'être bouleversé, bousculé, de rigoler, de voir des choses, il y a encore des choses.
Ah oui, il se passe encore beaucoup de choses à la scène nationale, puisqu'il y a de la programmation jusqu'en juillet. Mais on va rester sur les prochains spectacles. Une fois que Brincic Cirque sera terminé, nous accueillerons Émilie Loiseau. Alors, petit hommage, puisque c'est sa musique que nous avons utilisée pour le générique de cette émission. Elle viendra le 27 mai au Grand Plateau. Et encore une fois, on est très heureux de la recevoir. C'est une artiste qui, en plus, nous a proposé, bien pour son dernier album, qui est très doux et très poétique. Donc, je vous conseille pour les mélomanes et ceux qui la connaissent, mais ceux qui ne la connaissent pas aussi, à venir découvrir cet artiste. Ensuite, début juin, on aura une forme pour le jeune public qui s'appelle « Sous le manteau », avec deux artistes au plateau, ce sera dans la petite salle de Jean Villard, qui vont jouer sur un seul manteau pour deux, une bête à deux têtes, une bête à quatre pattes, entre artistes de cirque et danseuses. C'est vraiment une belle histoire, un beau moment, encore une fois, à partager en famille. Et pour les fans de classique et de théâtre, on a quand même le Corneille, le fameux classique de l'année. Alors, je tiens également à préciser que, effectivement, la scène nationale ne propose pas beaucoup de spectacles classiques de théâtre pour une raison particulière, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes ne les proposent. Il y a très peu de compagnies à l'heure actuelle qui continuent de monter des spectacles classiques. Donc, ce n'est pas toujours simple de les trouver. Donc, on est très contente d'accueillir ce spectacle de Julia Vidi qui vient du CRD de Nancy. C'est une mise en scène un petit peu moderne au point de vue des costumes. Par contre, on est vraiment sur le texte initial et originel de Corneille. Et ça dépote, on a de la bonne musique, on continue à aller regarder cette histoire d'un autre prisme. Et en tout cas, je vous invite à venir découvrir cette mise en scène assez originale qui met vraiment en valeur les mots.
Et puis, pas de soirée regard alors, au mois de mai, mais par contre, on se retrouve au mois de juin. On invite le public à venir à cette soirée regard du mois de juin.
Alors, le mois de juin, ce sera pour le 10, le mardi 10 juin au soir. Pour plein de raisons, entre les ponts et les programmations, Brin de Cirque, etc., on a décidé de décaler la date initialement prévue en mai à juin. Nous recevrons un plateau assez intéressant pour moi, en tout cas tout en nuances, puisque c'était l'idée. On reste sur la thématique future. On s'est dit, comment est-ce qu'on peut aller penser demain sans être... En restant dans le beau, en restant avec une belle note d'espoir. Et du coup, on allait chercher trois intervenants, intervenantes intéressants à plusieurs niveaux, de par leur parcours et de leur prise de position. Donc le premier, c'est François Yen. On en a déjà parlé, on va continuer d'en parler à plein de moments, qui a été notre artiste pluriel sur la saison passée et qui nous a accompagnés à plein de niveaux au point de vue... des aventures artistiques, mais aussi au plateau, puisque vous l'avez peut-être découvert ou rencontré lors de la crèche ou lors de l'éducation nationale pour le spectacle de cette année, ou si, sur les saisons précédentes, sur par exemple Mort d'une montagne ou Olivier Masson. Vraiment du théâtre documentaire qui remet tout à plat et qui horizontalise la façon de travailler et de fonctionner. Donc, c'est notre premier invité. Notre deuxième invité, c'est l'autrice essayiste Corinne Morel-Darleux, qui a fait pas mal de podcasts avec France Inter, qui est créé pour reporters et qui est écologiste engagée, militante, et qui défend le faire ensemble et le vivre ensemble, le un peu moins pour avoir plus, et le respect des uns des autres. Encore une fois, on est dans de la nuance, on est sur un autre prisme et les faire autrement. Et le dernier invité est un local, puisqu'il s'agit de Benjamin Raquin, qui est directeur de Natura 2000 et avec sa deuxième casquette de maire de Grand Coran, qui, pareil, prône le temps de parole, le temps d'échange pour réussir à avancer ensemble, puisque si on n'est pas ensemble, on n'avance pas, et qui a eu... beaucoup d'interactions pour la préservation du territoire et comment on avance avec les arbres et la nature dans notre territoire. Donc vraiment un beau plateau avec des points de vue différents à différents niveaux et en tout cas tout en sensible et en nuances. Donc venez nombreux et nombreuses.
Le mardi 10 juin. Et puis moi je tiens à signaler que donc la scène nationale a une autre émission sur notre antenne qui s'appelle Mon podcast sur la commode. Et si vous avez envie d'entendre parler François Yen, il est l'invité de la dernière émission programmée. Elle est en ligne, allez l'écouter. Voilà, merci à vous tous pour cette émission. Merci à toi, Jimmy, à la technique. Et on se retrouve le mois prochain pour la dernière émission de la saison. Et puis, en attendant, on va se retrouver au spectacle. Hein.
À bientôt.
À bientôt.
Regard.
L'émission qui multiplie les points de vue.
En partenariat avec la scène nationale de Bourg-en-Bresse.
À écouter sur Radio B.